Aujourd'hui, dans les studios pour l'invité de l'Auberge Espagnole, nous recevons Eric Mignard. Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous venez nous présenter la nouvelle édition du Festival des Fanfares 2023, le festival, on va dire, une institution à Montpellier. Et là, cette semaine, sur Divergence FM, on va égrener un petit peu tout le programme de ce Festival des Fanfares, tous les jours à 17h15, et on finira notamment avec une plus longue interview dans Pizzetto l'émission à partir de vendredi. Mais aujourd'hui, Eric, vous venez donc nous présenter cette nouvelle édition du Festival des Fanfares, et pour ceux qui débarqueraient un petit peu à l'île de Mars ou de Vénus, qu'est-ce que c'est le Festival des Fanfares? Moi, j'ai dit, c'est une institution à Montpellier, c'est un des plus gros festivals à Montpellier qui rassemble le plus de monde. La genèse de ce festival, elle vient d'où?
Le festival, en fait, il est né de la volonté des Cadors il y a bientôt 28 ans.
Ouais.
Parce que là, on fait la 26e année et qu'on a eu deux éditions sans.
Eh oui.
Comme tout le monde. Et c'était un samedi de fête de la musique et on s'est dit, on va faire un petit truc sur la place des Beaux-Arts parce qu'il y en a marre d'aller en ville où il y a des sonos partout, etc. Et puis on s'est rapproché de la fanfare des Bakchiches, et puis on a invité aussi une autre paire de fanfares, et puis ça s'est super bien passé. Ce n'était pas encore la première édition, mais c'est devenu la première édition de fête, parce que là, on s'est dit, c'est un truc qu'il faut pérenniser. Pas le faire le jour de la fête de la musique, mais pérenniser. Et donc après, on s'est rapproché des associations de quartier. Boutentrain pour Boutonnet et les Beaux-Arts, je ne sais plus.
C'est l'Arc-en-Ciel
Pierre,
de...
Beaux-Arts Pierre Rouge,
ouais.
qui est l'association de quartier des Beaux-Arts. Et on a créé l'association qui s'appelle l'Arc-en-Ciel des Faubourgs. Et du coup, on s'est structuré petit à petit. On a fait un premier festival qui était en fait la deuxième édition, qui a super bien marché. Pas du tout, parce qu'il a plu toute la soirée. Mais les fanfares étaient là, ils étaient contents et tout. Et ça nous a donné suffisamment la pêche pour continuer. Et puis d'année en année, ça a grossi. Et maintenant, je dis que c'est la fête populaire, la plus populaire de Montpellier.
Ouais, on peut dire ça.
Dans le sens où c'est la seule fête qui ne soit pas ou commerciale ou institutionnelle, comme la fête de la musique ou le FIS, enfin peu importe, mais c'est la seule fête qui est vraiment populaire, organisée par des gens des quartiers.
C'est des bénévoles tous.
Tous des bénévoles. Il y en a à peu près 200 sur le festival. On est une petite quinzaine à l'organisation sur toute l'année. Donc ça, c'est l'Arc-en-Ciel des Faubourgs. Et puis 200 bénévoles qui sont là les derniers jours. Enfin, sur les 15 derniers jours, il y a beaucoup de monde.
Ouais, parce que ça doit être une grosse structure à gérer quand même.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un peu l'habitude quand même au bout de la 26e édition. Donc on a des fichiers de route, etc. Je ne vais pas dire qu'on reproduit d'année en année, mais il y a un peu ça quand même. Ça aide quand même à faciliter le travail, même si on essaye chaque année d'avoir une petite approche différente.
Donc,
par exemple, cette année, on va le vendredi, qui est le jour d'avant le festival,
le vendredi 9,
on va s'étendre sur toute la métropole.
Et oui, c'est enfin, ça, c'est ce que j'ai vu dans le programme, c'est-à-dire que c'est la première fois que ça se passe, ça, justement.
C'est pas la première fois qu'on va jouer en dehors de Montpellier, puisqu'il y a une époque on faisait l'accueil des fanfares le vendredi soir à Clapiers, après on l'a fait à Saint-Jean-de-Védas. Et puis après, on est passé à une formule où on s'est dit, on va envoyer des fanfares dans différents quartiers le vendredi soir, pas toutes les regrouper ensemble. Et c'est donc la première fois où on envoie, entre guillemets, des fanfares jouer dans des villes de la métropole, en plus de quartiers de Montpellier.
On peut citer Clapiers, Lattes, Saint-Jean-de-Védas, Castelnau-le-Lez.
Voilà, cette année, c'est ces villes-là.
Et alors, moi, j'aime beaucoup ce titre, « La vie subaquatique ». Pourquoi ?
Pourquoi pas Non, en fait, tous les ans, ça fait partie du... Il y a des rituels comme ça. Déjà, le premier rituel, c'est la première réunion en septembre, c'est on en fait un nouveau ou on ne le fait pas. On se décide, on fait un nouveau festival. En général, on dit oui. Mais bon, on pourrait éventuellement dire non, on en a marre et tout. Mais bon, il y a quand même suffisamment de renouvellement de mains, et etc. Un des rituels, c'est de choisir le thème. On décide si on refait un festival, ensuite on choisit le thème et ensuite on choisit l'affiche.
D'accord.
Parce qu'il faut avoir un thème pour proposer le concours d'affiche. Et donc, on fait appel au peuple. On fait appel au peuple. On, on, on demande aux gens ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils ont comme idée de thème, etc. Et puis après, on vote. Et c'est la vie subaquatique qui est sortie cette année. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai du suba chez les cadavres.
Oui,
donc,
c'est ça.
Je me sens un peu dans le truc. Quoi.
Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'après, quand on regarde les différentes scènes sur le samedi, on y reviendra après, mais on retrouve la scène Abyss à glisse, Deux mille lieues sous la bière, Ocean Viking, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La sirène d'eau. C'est rigolo tout ça.
Bah ouais, mais ça, alors ça, par contre, les noms des buvettes, c'est les gens des buvettes qui choisissent leur nom.
D'accord.
Donc il y a un thème, il y a une affiche, et après, eux, ils choisissent le nom de leur... Donc on n'a pas, la même mise là.
Ok. D'ailleurs, comment vit un petit peu l'association? On va rentrer un petit peu dans le détail très rapidement. Donc c'est les buvettes, vous êtes soutenus un petit peu par la ville de Montpellier?
Alors bien sûr, on est plus qu'un petit peu soutenus.
Ouais.
On est vraiment soutenus par la ville de Montpellier. Alors tant en numéraire entre guillemets, puisque on a une subvention, on fait un dossier de subvention comme... tant aussi par leur aide sur certains points, comme nous prêter des podiums, entre guillemets des avantages en nature, mais c'est pas vraiment des avantages en nature, mais bon. Donc on a des conventions avec eux sur un certain nombre de choses. On a aussi le soutien du département, de la région, et puis cette année on a aussi le soutien du ministère de la culture via le plan Fanfare.
Oui.
Parce qu'il y a un plan Fanfare.
D'accord.
Et donc a priori, c'est bon, ils vont nous aider aussi cette année. Mais je ne pas chiffrer précisément, mais la plus grosse part de nos recettes, c'est quand même les buvettes.
Ouais.
Donc je ne saurais trop encourager les gens à utiliser nos buvettes plutôt que les boissons qui sont autour. Ceci dit, ils ont le droit de vivre, il n'y a pas de problème. Mais,
oui, mais c'est toujours bien de faire marcher l'association qui nous permet de jouir de cette soirée.
Et puis je vais rajouter une petite chose par rapport à ça, c'est que l'an dernier, on l'avait fait, mais on n'était pas très contents, parce que ça n'avait pas bien marché. Mais cette année, on renouvelle un partenariat avec deux associations qui sont SOS Méditerranée et SOS Montpellier-Ukraine. Et ce qu'on leur propose comme partenariat, c'est que si les gens leur rapportent leur EcoCup qu'ils ont payé, on ne leur rend pas leur consigne. C'est nous, le festival, qui rendons la consigne.
D'accord,
à l'association.
C'est bien ça.
Donc, c'est pareil, j'encourage les gens à retrouver. Alors, il y a deux spots où ils sont présents. Sinon, à chaque buvette, on peut dire je rends mon EcoCup, je ne veux pas la consigne, je veux le donner. Et après, on partage le bénéfice entre les deux associations.
Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre deux EcoCup, parce que généralement, les fans du Festival des Fanfares veulent les garder et puis les afficher. Ça, c'était en 2010, 2011. Prendre une deuxième, comme ça, on fait une bonne action.
Par exemple.
Là, on a parlé donc un petit peu de l'organisation. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Comment ça se passe pour découvrir des fanfares? Est-ce qu'il y a un réseau des fanfares mondiales? Parce que je sais qu'il y a des fanfares étrangères qui viennent. Comment ça se passe? C'est une veille permanente ou il y a des ponts qui se font entre les pays au niveau des fanfares?
C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, il y a si on peut dire, il y a un réseau, un réseau des fanfares, qui est maintenant international, et nous on a rien d'autre à faire que de choisir parmi les postulants. Il y a toujours je sais pas, cette année il y avait une cinquantaine de postulants ou quarantaine de postulants, donc nous on choisit parmi les postulants.
D'accord.
Alors après, c'est vrai que on a le privilège d'accueillir des fanfares étrangères. Cette année il y en a quatre. Il y en a une qui vient d'Austin, Texas. Une de Berlin et une de Bristol et une de Londres.
D'accord.
Donc ça, c'est pareil, c'est des fanfares qu'on connaît, parce que par exemple la fanfare d'Austin avait accueilli les Bakshish. Lambling qui vient de Bristol, et on les connaît parce qu'ils sont très copains avec une fanfare de Bretagne qu'on connaît. Enfin bon, voilà, c'est un réseau en fait, et les gens postulent et nous on fait une sélection qui est une péréquation entre le nombre de fanfarons qu'on peut accueillir, le style de musique, ceux qui sont déjà venus, ceux qui sont jamais venus, des fanfares locales aussi.
Intégrer, il y en a pas mal ici.
Et donc on essaye de... Enfin voilà, donc c'est jamais parfait. Il y a toujours des mécontents, des déçus, mais bon.
C'est le principe de la notoriété d'un festival aussi. Il faut savoir choisir. Donc du coup, ces fanfares sont sélectionnées. Elles arrivent le vendredi 9. Et donc, elles vont aller se dispatcher un petit peu dans les quartiers pour commencer à appâter les gens vers le quartier des Beaux-Arts qui se passera le lendemain. Donc, le lendemain, le samedi 10, on a le vide-grenier traditionnel, j'ai envie de dire.
Ouais, il y a deux vide-greniers. Il y en aura un au parc Babu, le nouveau parc, mm-hmm. l'ancienne caserne, qui sera géré par l'association de quartier Boutentrain. Ouais. Et un sur l'esplanade de la musique, qui est géré par l'association de quartier Beaux-Arts.
Mm-hmm. Ça, c'est des, le matin, généralement, voilà, il y a beaucoup de monde sur cet événement.
Et bien entendu, il y aura des fanfares qui animeront ces vide-greniers.
Mm-hmm. 15h,
15h,
la fameuse présentation
du festival Place Émile Combes, avec deux scènes où les fanfares alternent en jouant deux morceaux. Ouais. Ça permet aux gens, d'une part, ça permet aux gens de choisir un peu, d'avoir un avant-goût et de choisir un peu par rapport à la programmation où est-ce qu'ils vont aller le soir, parce mm-hmm. qu'on ne peut pas tout voir, d'une part. Et d'autre part, moi, je dis aussi que c'est un moment important, parce que c'est un moment où il peut y avoir plus facilement des enfants, parce qu'il y a peut-être un peu moins de monde, quoique maintenant il y a pas mal de monde, mais quand même, ça permet aussi aux enfants en bas âge de profiter que le soir.
Parce qu'on les voit jusqu'à les 22h max, voilà, et puis après, bon, il y a tellement de monde que ça devient compliqué avec un enfant.
Il y a peut-être un peu moins de monde dans l'après-midi pour ceux qui se craignent un peu trop la foule.
Et oui. Et ça commence donc cette présentation au quartier des Beaux-Arts, parce qu'on se dit que c'est à Boutonnet, en fait, le Festival des Fanfares, mais non, ça a d'abord commencé aux Beaux-Arts.
Ça a commencé aux Beaux-Arts, oui, tout à fait. Oui. Les premiers ont été sur la place des Beaux-Arts. Et après, on s'est étendu. Bon, dès le départ, on était en association entre les deux quartiers. Mmh. Enfin, en association avec les deux quartiers. Mais on s'est étendu. Bah, on s'est étendu aussi parce qu'on grossissait dans le sens où on pouvait accueillir plus de fanfares, parce qu'on avait on a installé des buvettes. On s'est dit, on va installer plus de buvettes, etc. Mmh. Donc c'est comme ça qu'on s'est étendu. Bon, le quartier étant ce qu'il est, on n'a pas non plus des possibilités.
Et c'est pas extensible.
Non, c'est pas extensible aujourd'hui. Bon. Je vois pas bien les endroits où qu'on pourrait investir.
Ouais.
Et
puis ça serait dommage de sortir de ces deux quartiers qui au final sont le même quartier, ils ont des noms différents, mais comme ça nous permet, allez, on part de la place des Beaux-Arts, on remonte vers le quartier Boutonnet, on s'arrête place Krasouki, on redescend un petit peu, et là on peut voir un petit peu tout ce qui se passe, s'arrêter devant les scènes, prendre un peu de temps, et c'est ça la magie de ce festival, je trouve.
Ouais, on a aucune volonté de s'agrandir, si ce n'est le vendredi en allant jouer un petit peu à l'extérieur, mais... On n'est pas capable de gérer plus de fanfares, mmh. plus de musiciens. Donc, quelque part, on est à peu près à l'équilibre, je dirais, sur la structure générale du festival.
Et puis moi, j'ai toujours cette image du Festival des Fanfares, on y plonge. C'est-à-dire qu'on commence à entendre la rumeur arriver, on passe les barrières où la police municipale nous dit « Attention, on ne prend pas de bouteille. » Et là, on rentre dans le Festival des Fanfares et on passe une super soirée. Du coup, de 15h à 17h30, donc la présentation des fanfares, et 19h, là, ça y est, ça commence.
Voilà, à partir de 19h jusqu'à 1h du matin, fermeture des buvettes, 1h30. Les fanfares jouent sur des scènes à proximité de buvettes et sur ce qu'on appelle des podiums, qui sont des endroits dispatchés dans le quartier qui sont plus petits. Et en général, les fanfares jouent deux fois, une fois sur une scène, une fois sur un podium.
D'accord, elles tournent sur les scènes.
Okay, vous imaginez les problèmes de programmation que ça peut entraîner. Oui, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, il y a une modification par rapport au planning actuel, enfin qu'on a édité, mais bon, c'est pas très grave.
Après, là, je sais que vous avez actualisé aussi sur le site du festival le plan aussi et les heures auxquelles les fanfares vont jouer.
C'est-à-dire que sur le site du festival, il y aura la programmation définitive à jour. Mm-hmm. Sur les éditions papier, il y a une petite, pas coquille, mais enfin on a déplacé, en gros on a déplacé les cadors parce que pour faciliter d'autres. Mais c'est quelque part, c'est bien parce que les cadors, ils sont jamais là où on croit qu'ils sont.
Oui, alors, donc, c'est vrai. Et puis bon, alors ça va pousser jusqu'à 1h. Et puis bon, après, ça on le dit un peu en off, mais il y a toujours la soirée d'après avec les fanfarons et les bénévoles qui ont accompagné.
C'est ce qu'on appelle entre nous l'after, qui est une soirée privée qui se déroule dans un endroit inconnu et qui fait partie du charme pour les musiciens. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils aiment venir aussi. C'est que quand ils ont fini de jouer à 1h du matin, un fanfaron est rarement fatigué et c'est pas l'heure d'aller se coucher. Et c'était un des problèmes qu'on a eu à une époque, c'est qu'ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Ouais. Donc on avait des soucis vis-à-vis des autorités, etc. Donc, en fait, on s'est dit, la solution, c'est de tous les... Et puis, s'éloigner un peu, de les faire prendre un bus, comme ça, s'ils ratent le bus, ils sont chocolat. Et donc, ils font toujours... C'est rare qu'un musicien rate le bus maintenant.
Oui,
parce qu'ils savent que, et là, c'est toute la nuit.
Généralement, c'est vers une belle destination, vers la plage.
C'était.
On n'en dira pas plus. Non. En tout cas, merci beaucoup, Éric Mignard. Je rappelle que vous étiez président de ce festival. Vous êtes dans la fanfare au Souba, chez les Cadors. Et puis, bien sûr, Divergence FM se fera l'écho de ce festival tout au long de la semaine. Et on vous souhaite un très bon festival avec beaucoup de monde.
Merci beaucoup et merci de nous avoir accueillis.